Chers frères et sœurs, comme je vous le disais au début de la messe, nous fêtons la solennité du Saint-Sacrement, c'est-à-dire ce miracle incroyable qui consiste pour Jésus à venir dans le pain et dans le vin au moment de la messe. Et ce miracle, il s'opère à chaque fois qu'un prêtre dit ces mots dans l'intention de l'Église. À chaque fois que le prêtre dit ces mots de la consécration, Jésus vient dans le pain et vient dans le vin. C'est pas un symbole, c'est pas une image, c'est une réalité. C'est vraiment Jésus lui-même, tout Jésus qui vient dans le pain et dans le vin. Ce qu'on mange, c'est pas une idée. Ce qu'on mange, c'est pas oui, ou un symbole, c'est vraiment Jésus lui-même. Et vous voyez, il y a quelque chose qui est caché, comme dit Élisabeth de la Trinité. Quelque chose qui est caché entre Jésus et nous. Parce que ce qu'on voit, nous, c'est du pain. Il va falloir la foi pour que la puissance eucharistique se déploie pleinement dans le cœur de celui qui mange Jésus. Parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de manger Jésus. C'est un acte d'amour aussi de manger. Combien de fois je vois les mamans devant les cuisses rondes de leurs petits-enfants les faire rigoler en mimant le fait qu'elles mangent, qu'elles les mangent. Les enfants ne s'affolent pas. Les enfants savent que c'est un acte d'amour, que c'est comme un baiser. XXL. Ils savent très bien que les enfants, qu'ils manqueront rien. Que la maman ne va pas faire du mal. Et le papa même parfois fait ce jeu-là. Mais vous voyez, il y a à l'origine du Saint-Sacrement d'abord de l'amour. Parce que la situation du point de vue de Dieu est une situation où nous sommes en danger. Nous sommes extrêmement fragiles et ça ne date pas d'hier. Et tous, autant que nous sommes extrêmement fragiles. Comme dit saint Paul, nous faisons ce que nous ne voulons pas faire. Et ce que nous voulons faire pour le Seigneur, nous finissons par ne pas le faire. On a décidé de faire la procession à Montmartre, et puis il va y avoir un truc qui va faire qu'on ne va pas le faire. C'est idiot, mais c'est comme ça. On pense qu'on va écrire une lettre, qu'on va donner un coup de téléphone, qu'on va s'occuper d'une quelqu'un qu'on aime, et puis on ne le fait pas. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que notre cœur, même si au baptême, il a reçu tout l'amour de Dieu, mais il a besoin d'être sans cesse réactivé, renouvelé, si vous voulez. Et pendant tout l'Ancien Testament, et pendant une bonne partie de l'écriture du Nouveau Testament et de la vie de Jésus, Jésus ne va pas cesser, son Père et lui ne vont pas cesser de nous ouvrir à cette vérité. Les multiplications des pains, ce sont à chaque fois des signes que Jésus veut nous nourrir parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Mais il n'y a pas que les multiplications du pain, comme signaux, si vous voulez. Il y a l'histoire de la manne dans le désert. Mais beaucoup plus simplement encore, et c'est même risible, tellement c'est un clin d'œil du Seigneur, c'est le lieu où Jésus naît. La ville où il naît s'appelle Bethléem. Et vous savez ce que ça veut dire Bethléem en hébreu? La maison du pain. Vous voyez, le bon Dieu a une idée derrière la tête, et quand il a une idée derrière la tête, il n'arrête pas, parce qu'on a du mal à comprendre les choses. Les disciples d'Emmaüs, après la mort de Jésus, comprennent rien, ils sont largués, ils sont perdus, ils sont tout tristes. Alors Jésus vient à leur rencontre. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Il voit notre situation, il voit qu'il nous manque quelque chose, alors il vient cheminer avec nous. Il chemine avec les disciples d'Emmaüs. Il leur raconte dans l'Écriture tout ce qui le concernait. Un peu ce que j'essaye de faire maladroitement. Et puis arrive le soir. Le soir, c'est un moment privilégié, en tous les cas dans Saint-Luc, c'est toujours le soir, trois fois en tous les cas, que le Seigneur veut nous faire comprendre le miracle de l'Eucharistie. Jésus fait mine de partir pour qu'on le garde. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il veut que l'homme pose un acte de volonté, vous voyez. Il veut que nous participions à ce mouvement d'amour qu'il veut nous donner. Il veut qu'on se rende compte que ça ne va pas de soi, que les choses ne tombent pas du ciel comme ça, sans qu'on le veuille et sans qu'on exerce surtout notre liberté, vous voyez. Donc le premier acte de liberté que les deux apôtres vont faire, que les deux disciples vont faire, c'est de garder Jésus auprès d'eux. Ils ne savent pas très bien ce qui va se passer. Ils vont leur donner à manger, bien sûr, du pain, du houmous, un peu d'huile, un peu d'olive. C'est ça qui va se passer probablement dans leur tête. Et puis peut-être que Jésus va rester dormir sur la terrasse et puis repartir le lendemain matin. Ça se fait en Orient. Sauf que Jésus va faire quelque chose de très particulier. Il va rompre le pain et il va reproduire ces fameuses paroles. Ces paroles qui font que le pain devient Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans cette page de l'Écriture de merveilleux? C'est ce moment où on peut lire « Et il disparut à leurs yeux ». Vous sentez la nuance « Il disparut à leurs yeux ». Ça veut dire qu'il est là. S'il n'a fait que disparaître à leurs yeux. En fait, comme dit le curé d'Ars, il est là. Il est dans l'Eucharistie. Et là, les disciples, tout d'un coup, le comprennent. En mangeant ce pain, leurs yeux s'ouvrent. Il est là le secret du Saint-Sacrement, mes amis. Il est là le secret du Saint-Sacrement. En mangeant Jésus, nos yeux devraient s'ouvrir. Et sur quelle réalité ? Mais pardon d'être affreusement répétitif et banal, mais tout simplement que Dieu est là, que notre Père éternel est là et qu'il prend soin de nous. C'est ça que nous avons besoin de voir et de comprendre, parce qu'on traverse cette vie souvent en pensant qu'on est seul, qu'on est isolé et qu'il faut qu'on se débrouille tout seul. Ça me fait penser, c'est comme si vous envoyiez un pompier quand il y a un feu, tout seul. Je ne sais pas ce que ferait le capitaine. On n'envoie pas un pompier tout seul, n'est-ce pas? Ils y vont à plusieurs. Ils ont besoin d'être plusieurs, comme nous avons besoin d'être plusieurs. C'est pour ça que le Seigneur a choisi que nous nous rassemblions. Ce n'est pas, une option, vous voyez, cette messe, ce rassemblement. Ce n'est pas une option. C'est parce que le Seigneur veut nous nourrir tous, mais pas de façon privée, de façon publique, pour que nous sentions que nous sommes un corps uni, maladroitement dans le péché, c'est vrai, mais que nous sommes ensemble, et qu'ensemble on n'a rien à craindre, qu'une équipe ensemble est forte, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut revenir tous les dimanches. Tous les dimanches. Alors, chers frères et sœurs, on a de la chance à Notre-Dame des Victoires, il y a de plus en plus de monde qui vient le dimanche. Merci Seigneur. C'est une réalité. Mais il y a une autre réalité qui est juste à côté et que je veux combattre. C'est que nos jeunes générations pensent que venir à l'Eucharistie, venir à la messe et manger Jésus, c'est une option. C'est bien quand on le fait, mais si on ne le fait pas. C'est comme si je vous disais que manger est une option. Non, manger n'est pas une option. Dormir n'est pas une option. Respirer n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Alors souvent les gens me disent, mon père, est-ce que c'est un péché grave? Bah, si tu manges pas, c'est grave. Si tu respires pas, c'est grave. Si tu dors pas, c'est grave. Ça va mal se finir. C'est pas une solution d'avenir. C'est ça que le Seigneur nous dit, vous voyez. Et leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce qu'on a vraiment envie que nos yeux s'ouvrent? Mon père, mes yeux sont déjà ouverts, je comprends tout de la foi chrétienne. Ben, vous avez bien de la chance parce que ce n'est pas mon cas. On ne s'imagine pas ce que le Seigneur veut nous faire voir à chacun. Il a des tas de choses à nous dire, vous savez, le Seigneur. Il a des tas de choses à nous faire voir. Alors, sa part à lui, c'est de se donner à nous sous la forme de l'Eucharistie. Voilà, il y a des prêtres qui sont ce qu'ils sont, qui le font. Les jugez pas trop vite, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils vous donnent Jésus. De façon régulière, à peu près. Bon, chacun avec son tempérament, chacun avec sa couleur, chacun avec sa fragilité aussi, que vous voyez très très bien tout de suite. Mais après, quelle est notre part? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que nos yeux s'ouvrent? Est-ce qu'on peut faciliter le travail de la grâce? Est-ce qu'il y a un acte volontaire qu'on peut faire et qui va faire que, en mangeant Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui va s'opérer en nous? Oui, chers frères et sœurs, il y a une chose qu'on peut faire et qu'on ne fait pas tous. Et c'est pour ça qu'il y a des fils au moment de la communion. Et cette chose, c'est de dire, Seigneur, je crois en toi. Qu'est-ce que vous faites dans la file d'attente avant d'aller communier? Qu'est-ce qu'on fait? On critique le voisin de devant? On critique la voisine? Au contraire, on est distrait par tel truc ou par tel autre? C'est le moment, chers frères et sœurs, où il faut répéter les actes de foi en boucle. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, j'espère en toi. Ce que je vous dis là, vous savez, c'est la grande tradition de l'Église. C'est ce que dit Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et tous les autres. Alors, Jésus va venir en vous, dans votre corps. Qu'est-ce que vous allez sentir? Rien, pas plus que moi. En revenant à votre place, sauf que le miracle eucharistique se produira à ce moment-là. Thérèse d'Avila dit que toutes les grandes grâces qu'elle a reçues, elle les a reçues après avoir communié au corps du Christ. Toutes les grandes grâces qu'elle a reçues, elle les a reçues après avoir communié au corps du Christ. Qu'est-ce que nous voulons? De quoi voulons-nous être nourris? Alors vous voyez, juste après avoir mangé Jésus, pardonnez-moi de vous prendre pour des enfants de 6 ans au catéchisme, mais c'est bon de se le rappeler de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a mangé Jésus? On va s'asseoir sur son banc, on va s'agenouiller. Il y en a qui ont pris l'habitude d'aller là, au pied de la Vierge. Et on remercie le Seigneur. Bien sûr que c'est le moment de remercier le Seigneur. C'est le moment d'être infiniment reconnaissant. Chers frères et sœurs, il m'est arrivé dans ma vie, et promis, je m'arrête après, de vivre un événement qui m'a profondément bouleversé, mais très profondément bouleversé. Il se trouve que providentiellement, j'ai pu servir la messe du pape Jean-Paul II. Je vous passe les détails du début de la messe, je vous raconterai une autre fois. Mais à la fin, on s'est tous retrouvés dans la sacristie et le pape nous a salués, nous a donné un chapelet. On était encore en aube, on était 3 ou 4. Il s'est agenouillé devant une table en bois. Vraiment une table, une grosse table en bois. Il n'y avait rien sur la table en bois. Au-dessus de la table en bois, il y avait une tapisserie qui représentait une croix du Christ. Et autour de lui, rien ni personne. Il s'est mis à genoux par terre. Il a posé sa tête sur la table en bois. Il a posé ses mains au-dessus de sa tête. Et ça a duré 20 minutes. 20 minutes. il était indécollable. Et qu'est-ce que nous vivions à ce moment-là? Mais nous sentions que la grâce eucharistique s'opérait en lui et que lui la laissait s'opérer. Son corps ne bougeait pas, il y avait très peu de mouvement. On sentait qu'il n'y avait pas grand-chose de volontaire de sa part. On sentait simplement qu'il laissait la puissance de l'amour se déployer en lui, tout simplement. Ensuite, il s'est relevé. Les sacristains qui sont là l'ont déshabillé et il s'est retourné vers nous pour nous saluer. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, dans son regard, à ce moment-là, il était parfaitement adapté à chaque personne qu'il rencontrait. Ça, c'était très impressionnant. Chacun, nous avions l'impression d'être aimés. Chacun, nous avions l'impression d'être respectés. Pourtant, il ne nous connaissait pas. On allait se séparer, on ne se reverrait plus jamais. Mais en une seconde, le miracle de l'Eucharistie s'est transmis de lui à nous. C'est ça, la foi eucharistique, vous voyez. Il faut demander cette grâce à la Sainte Vierge, parce que ça ne va pas de soi. Ce n'est pas évident d'ouvrir largement son cœur. Ce n'est pas évident de profiter de ce moment d'action de grâce à la fin de la messe. Souvent, on est attiré de faire telle chose ou de faire telle autre, par telle pensée, par tel enfant qui fait du bruit. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à particulièrement soigner ce moment où nous prenons Jésus en nous-mêmes, et ce moment où nous sommes avec lui et nous pouvons laisser son amour se déployer en nous. Amen.